Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet. Le cinéma RSC de Fort-Calquier, je vous parle de la semaine du 10 au 16 janvier. 6 films sont à l'affiche et les années 70 y sont particulièrement présentes avec 2 films tournés dans les années 70, un autre dont l'action se passe dans les années 70. Autre thématique, la sexualité, notamment féminine, avec les 2 premiers films dont on va vous parler, dont le personnage se trouve dans une situation que l'on peut rapprocher, mais le traitement des 2 films est très différent. On commence avec Iris et les hommes. C'est le nouveau film de Caroline Vignal. Le nom peut-être ne vous dit rien encore, mais vous avez vu peut-être à Fort-Calquier, notamment en plein air, puisqu'on avait montré le film en 2020, en août 2020, un mois ou deux avant sa sortie nationale pour un grand succès au couvent des Cordeliers à Fort-Calquier. Le film s'appelait Antoinette dans les Cévennes. Il a fait 700 000 entrées en France, un grand succès surprise qui intervenait après le confinement entre 2 fermetures des cinémas à un moment bienvenu, voilà, qui permettait de garnir un petit peu les salles de cinéma. Antoinette dans les Cévennes, qui avait valu l'année suivante à Laure Calamy, son actrice, le César de la meilleure interprète féminine. C'était le 2e film de Caroline Vignal, le premier en 2000, Les autres filles, 2000, voyez, 20 ans entre le premier et le second. Ça dit beaucoup évidemment des difficultés qu'ont les réalisateurs et les réalisatrices à réaliser non seulement un premier, mais souvent davantage encore un 2e film. Pour le coup, elle a plutôt enchaîné depuis Antoinette dans les Cévennes avec la volonté assurément de reproduire le succès d'Antoinette avec Iris et les hommes, donc, qui sort en cette période de fête. Le film est sorti le 3 janvier, c'était encore les vacances. On vous le propose donc cette semaine, et le duo, l'alchimie d'Antoinette dans les Cévennes, fonctionne à nouveau pour une grande part grâce évidemment à tout le talent dont Laure Calamy est capable. Elle en fait beaucoup, hein. C'est pas de son côté qu'on ira chercher une forme de subtilité, ni même dans le scénario, mais il y a un tel plaisir chez Laure Calamy à ce point communicatif. Le rôle a évidemment été écrit pour elle. Alors elle, c'est une femme d'une 40aine d'années qui s'ennuie dans son mariage et qui via une appli va rencontrer une multitude d'hommes avec qui elle va connaître des aventures et voilà, chercher une forme d'épanouissement tardif dans sa sexualité, dans le désir et dans son corps. Et les seconds rôles masculins sont au diapason de Laure Calamy, donc on prend pas mal de plaisir quand même à ses dialogues, à ses situations, même si le tout paraît un petit peu simpliste dans sa recette. Vous rirez sans doute beaucoup à la voir jouer Laure Calamy et à ses personnages. Le film de Caroline Vignal, donc Iris et les hommes, est programmé cette semaine pour 6 séances à Fort-Calquier.
Il se passe plus rien entre nous. Au lit.
Ouais, ça suffit.
Vous avez pensé à prendre un amant ? Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés.
Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît ? C'est pour Doctolib, hein. C'est obligatoire maintenant.
Ah bon ?
Bah oui. Alphonse Carnezon.
C'est qui ?
Le Bon Coin. C'est incroyable, hein. Les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. Hein.
T'es mariée depuis combien de temps ?
16 ans.
Je suis divorcée.
J'ai pas l'intention de quitter mon mari.
Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on peut pas revenir en arrière. Comme des portes qui s'ouvrent. C'est infini.
Chaud, tu m'embrasses. Je vais devoir m'absenter demain. Vous rappelez les patients et vous leur trouvez d'autres rendez-vous.
Les patients, il y en a, ça fait 3 fois que j'ai des places. J'ose plus les appeler, hein.
Faut apprendre à dire oui. Découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser. Oui. Jouir. It's De toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir.
Au plaisir.
La subtilité, la complexité, la poésie aussi, vous la trouverez davantage dans ce film d'une réalisatrice géorgienne qui s'appelle Elene Naveriani. Elle est née en 1985 à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, mais elle travaille en Suisse. Elle a cependant réalisé ses 3 longs métrages en Géorgie. Celui-ci, donc, nous l'a fait connaître en France, et c'est tant mieux. car c'est un film formidable qui s'appelle donc Blackbird, Blackbird, Blackberry. C'était le titre original sous lequel je l'ai vu à Cannes. Il sort aujourd'hui sous le titre légèrement simplifié de Blackbird, Blackberry. Blackbird, c'est le merle en anglais. Blackberry, c'est la mûre. Et vous trouverez une explication à ce titre étrange et assez beau dans la première scène qu'il ne faut surtout pas manquer parce qu'elle est décisive pour ce qu'il s'ensuit de ce personnage et des décisions et du changement qui va s'opérer dans sa vie. L'actrice est remarquable. La réalisatrice a écrit ce film pour cette actrice-là. Et son personnage s'appelle Hétéro. Alors l'actrice, je n'ai pas dit son nom, elle s'appelle Eka Javepchvili. Vous verrez cette présence, ce charisme, ce physique aussi tout à fait surprenant qu'on est assez peu coutumier de voir au cinéma. Elle porte là un personnage, elle incarne un personnage qui s'avère fascinant, intrigant, très beau aussi dans ses aspirations, dans l'affirmation de ses désirs. À l'âge de 48 ans, elle découvre une sexualité et cherche évidemment à s'y épanouir. Mais ça va évidemment provoquer pas mal de remous dans la communauté villageoise auprès de ses copines qui sont absolument infectes d'ailleurs. Il y a donc de l'humour dans ce film Blackbird, Blackberry. Il y a aussi beaucoup de sensualité. On peut penser parfois au cinéma de Kaori Smaki dans ses cadres, dans ses tonalités, mais avec ce supplément d'âme quand même qu'offre cette sensualité particulièrement incarnée par cette actrice merveilleuse. Vous y trouverez un regard humaniste, beaucoup de douceur, et puis de l'insolite qui s'inscrit dans les situations, dans ce personnage, dans les dialogues. Et c'est un film que l'on vous recommande, Blackbird, Blackberry. C'est le film géorgien, donc de Elena Naveriani.
და არავინ აღარ მჭამს.
ჩენეთო ახარ.
შვიდობის დილა კონადეთ.
იცი რა ლამაზი შაშვი დავინახე. გამახვიცა. გამომაცოცხლა.
შაშვი გობ.
შაბათს პირველზე მარშუტკას გამოყე. მეორე შესახვევთან გააჯერები. და იქ ვიქნები.
მეცივარ მოხრიცინა
არტო მინდა ვიყო იმას ვაკეთებდე რაც მინდა სადაც მინდა
მე ხო გამოდი მე მდგევარ
აგვალეიყო ჩემ მშობელი კლასელიც ეკობარიც შემარებულიც
დავიქნები შენი მოყოლი.
De l'humour, vous en trouverez également à foison dans le nouveau film d'Alexander Payne. Il s'appelle, dans bon français, Winter Break, puisque c'est ses aberrations de la distribution en France, un film américain qui s'appelle The Holdovers, c'est-à-dire ceux qui restent, s'appelle pour sa distribution française Winter Break. C'est le 8e long métrage du réalisateur américain d'origine grecque, Alexander Payne. On l'avait découvert avec son deuxième film en France en 1999, L'Arriviste. Davantage avec Monsieur Schmitt, incarné par Jack Nicholson en 2002, suivront Sideways, The Descendants avec George Clooney, Nebraska qui vaudra à Bruce Dern le prix d'interprétation masculine à Cannes, l'oubliable Downsizing qui d'ailleurs a peu été remarqué à sa sortie en 2017 avec Matt Damon, et Alexander Payne nous revient sans doute avec son meilleur film aujourd'hui, Winter Break, qui, cela a peu été souligné, je vous le dis, est une adaptation en quelque sorte non avouée d'un film de Marcel Pagnol de 1935 qui s'appelle Merlus. C'est le même point de départ que Winter Break, c'est-à-dire à la veille de Noël, un établissement scolaire et un enseignant va passer les vacances de Noël avec quelques élèves. Évidemment, un rapprochement va s'opérer en dépit du caractère absolument abominable et abject de ce professeur. Dans le rôle du professeur ici chez Alexander Payne, on retrouve l'excellent Paul Giamatti qui jouait déjà dans Sideways en 2004, il y a 20 ans aujourd'hui. Acteur excellent donc ici, qui justement excelle vraiment dans ce personnage acariâtre, sadique, qui est vraiment absolument horrible dans un premier temps, mais un rapprochement va s'opérer entre lui, un élève consigné pour les fêtes, et puis la cuisinière de l'internat, qui est interprétée par la formidable Davine Joy Randolph, qui va sans doute écumer quelques prix parmi les récompenses du second rôle féminin dans les mois à venir. Et vous trouverez donc dans ce film, par la grâce de ses acteurs et de ses dialogues, une œuvre délicate, intelligente, drôle. Vous allez assurément beaucoup vous émouvoir aussi par le changement qui s'opère et l'évolution de ces personnages au cœur de cet internat, au cœur lui-même de l'hiver. Et on vous recommande chaudement Winter Break de Alexander Payne, une très bonne comédie comme on n'en voit pas tant. Le film donc de Alexander Payne qui est programmé pour 5 séances en version originale bien sûr.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers.
Mr. Hundam.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
You know, he used to be a student, right?
Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us.
I thought all the Nazis were hiding in Argentina.
Stifle it, Tully.
You just earned yourself a detention, sir.
Being here with you is already one big detention.
Son of a bitch, that's another detention.
Do you think I want to be babysitting you?
No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer.
My father's
to take
dead.
You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you?
There's nobody here, okay? You stay out of my way, and I'll stay out of yours.
Let me sleep in the
Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers, too. You know that, right?
I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common.
I don't think I've ever had a real family Christmas like this before.
Thank you, Mary.
You're welcome.
History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present.
See, when you say it that way,
and throw in some pornography, it's a lot easier to understand.
No matter what you are.
I'd like to propose a toast to my two unlikely companions.
Are you trying to lick down my shirt?
No.
Yes.
You're gonna get me fired.
This is your Rubicon.
Do not cross
the Rubicon.
Bon, les fêtes, les vacances sont finies, mais on ne veut pas manquer de partager avec vous Les Inséparables, film jeune public plutôt réussi de Jérémy Degruson, dont le scénario est écrit par Joel Cohen et Alex Sokolov, c'est-à-dire rien moins que les scénaristes du premier Toy Story en 1995, qui était une vraie réussite. Et vous allez sans doute prendre pas mal de plaisir à ce film-là aussi, dont les personnages principaux sont des marionnettes qui prennent vie dans un théâtre une fois que les lumières se sont éteintes. Et l'ensemble du film constitue un récit d'aventure haletant, drôle, plein de rebondissements, mais c'est surtout le casting vocal pour ce qui est de la version française qui est épatant, puisqu'on y retrouve Éric Judor, Jean-Pascal Zadi, qui est décidément très drôle, et la formidable Anna Girardot. Voilà, ce sont les atouts principaux d'un film qu'on regarde vraiment avec plaisir, en famille, avec les enfants à partir de 5 ans. Les Inséparables donc de Jérémy Degruson est programmé pour 2 séances, ce mercredi à 16h30 et samedi 13 janvier à 15h.
Je n'en peux plus d'interpréter le bouffon. Je voudrais rien qu'une fois être le héros.
Don, le héros?
Oui.
Je joue le héros parce que je suis naturellement le héros.
La plaisanterie a assez duré.
Non.
Tu interprètes le bouffon.
Parce qu'au fond, tu es un bouffon.
C'est fini. Je quitte le théâtre.
On sait tous que c'est trop dangereux dehors.
Je lui donne 3 quarts d'heure, maximum.
Je pars pour une grande quête. Je vais prouver au monde entier que je suis un héros. En avant toutes.
On en vient aux deux films des années 70 que j'évoquais tout à l'heure, avec le deuxième temps de notre focus consacré à François Douroubet, l'excellent compositeur français, qu'on aimerait même continuer ce focus, parce qu'il y a plein de films d'un certain âge d'or, en tout cas du film policier français, qu'on aimerait redécouvrir, à commencer par certains films de José Giovanni, et c'est sans doute là un de ses meilleurs, sinon le meilleur qu'on vous propose, avec Dernier domicile connu, film de 1970, avec Lino Ventura, avec Marlène Jobert notamment. Alors autant, et Giovanni joue bien sûr là-dessus, autant Ventura est un acteur chevronné, qui interprète ici un inspecteur chevronné lui aussi, et Marlène Jobert, fraîcheur et jeunesse qu'elle incarne merveilleusement, est une jeune enquêtrice qui va constituer un binôme avec le personnage de Lino Ventura. Et c'est une des grandes réussites du film que ce duo que l'on va suivre à travers dans les rues parisiennes. C'est toute la beauté de ce film que d'imprimer un rythme comme ça à travers les cavalcades de ces deux personnages dans un Paris qui est en pleine mutation. On est entre la fin des années 60, début des années 70. Donc Paris s'affirme aussi dans son architecture moderne, pas toujours pour le meilleur, et certains grands ensembles, certaines tours sont construites à cette époque. Mais il y a encore le Paris d'autrefois, que l'on voit aussi filmé ici presque de manière documentaire par moments. Et la musique de François Droubet incarne ça merveilleusement, parce qu'il y a, une dimension poétique, une dimension mélancolique, mais il y a aussi toutes ces sonorités nouvelles que François Droubet a vraiment introduit dans le cinéma français de cette époque. Alors c'est vraiment une des grandes réussites de François Droubet que cette musique de Dernier domicile connu, qui a été reprise, citée maintes fois, notamment Robbie Williams, pour son hit mondial qui s'appelle Suprême, qu'il avait donc samplé, et permis de faire découvrir à l'échelle internationale la musique de François Droubet. François Droubet qui, en cette même année 1970, c'est pour vous dire un peu à combien il était demandé dans le cinéma français de cette époque, en 1970, il réalise la musique de 7 longs métrages, en 71 de 8 longs métrages, d'où presque l'effet de saturation qui va suivre en ce début des années 70. Mais en tout cas, pour Dernier domicile connu, il propose là vraiment une de ses plus belles musiques. C'est évidemment l'angle sous lequel on vous propose de découvrir Dernier domicile connu, ou simplement de le revoir si vous l'avez déjà vu, mais sans doute plutôt à la télévision. Et vous prendrez assurément plaisir, surtout si vous avez vu samedi dernier le film documentaire, le portrait que l'on vous a proposé de François Droubet. Et vous serez attentif à ses mélodies, à la façon dont la musique s'inscrit aussi dans l'histoire et dans le récit proposé par José Giovanni, qui adapte ici un roman de la série noire, puisque c'est vrai que José Giovanni était lui-même romancier, scénariste, dialoguiste, et qu'il a souvent puisé soit dans ses propres romans, soit dans les romans policiers, notamment de cette collection chez Gallimard de la série noire, l'inspiration de ses films. Alors, Dernier domicile connu, c'est un roman au départ de Joseph Harrington, qui est publié en 1965, qui s'appelle Last Known Address, c'est-à-dire la traduction, une juste traduction pour Dernier domicile connu, du titre original. Mais l'action se passe à New York, et beaucoup de producteurs, de réalisateurs aussi, étaient plutôt perplexes quant à une possible transposition de ce récit à Paris. C'est Lino Ventura, qui était un ami, un proche évidemment, de José Giovanni, qui avait joué dans plusieurs des adaptations de romans de José Giovanni, notamment par Robert Enrico évidemment, avec Les Grandes Gueules, avec Les Aventuriers, et qui avait joué aussi dans Classe Touriste, qui était l'adaptation par Claude Sauté d'un roman de José Giovanni. Voilà, donc tous deux étaient vraiment très proches. Lino Ventura va très vite dire oui à la proposition de Giovanni, mais Giovanni ne pense pas réaliser dans un premier temps ce film. Et il y viendra finalement sur l'insistance de Lino Ventura. Et Giovanni, qui a repéré Marlène Jobert, tiendra beaucoup à ce qu'elle incarne, cette jeune enquêtrice, aux côtés de Lino Ventura. C'est toute la réussite du film, que ce duo très singulier et à la fois la fraîcheur et la force de ce personnage incarné par Marlène Jobert, qui est vraiment très très touchant. Et on va voir ce vieux bougre de Lino Ventura changer au fur et à mesure aussi du film et adopter en partie les idées et la jeunesse de Marlène Jobert. Dernier domicile connu donc, vous est montré ce jeudi 11 janvier à 18h30, ne le manquez pas, c'est un vrai plaisir, c'est une grande réussite du cinéma français de ce début des années 70.
Tu ne dois agir qu'en cas d'urgence. Il pense que la police n'a plus le temps. Il est vrai que 4 jours c'est très court.
C'est très long aussi.
Évidemment, une autre grande réussite du cinéma français des années 70 dans un genre très très différent, c'est le film de Jean Eustache, La maman et la putain, c'est-à-dire le chef-d'œuvre d'Eustache auquel trop souvent, vous le savez, on résume la filmographie de Jean Eustache. Bon, il est vrai que le film est extraordinaire, qu'on ne se lasse pas de le revoir, surtout dans des bonnes conditions comme il nous est proposé depuis un an et demi. On vous avait montré le film en juillet 2022, lorsque le film est ressorti en amont de la rétrospective Eustache, mais on tenait à vous le proposer à nouveau dans le cadre de ce cycle. C'est donc la 4e séance du cycle que nous consacrons à Jean Eustache depuis le mois d'octobre. C'est aussi déjà le 6e film que l'on vous propose. Il y en aura 9 en tout, court-métrage, moyen-métrage, long-métrage. C'est un film de 1973 avec Jean-Pierre Léo, Françoise Lebrun et Bernadette Lafont. Et c'est vraiment l'un des grands textes du cinéma français, un texte de feu, disait Bernadette Lafont, à juste titre. C'est un film qui est hors norme, 3h40, pour un film intimiste qui se passe essentiellement dans une chambre, un appartement, des cafés parisiens. Et c'est un film ô combien singulier, auquel on adhère ou auquel on n'adhère pas. Le film constitue assurément une expérience inoubliable, intense, dans une vie de spectateur. Et l'on vous invite donc à découvrir ou à revoir en salle, ce samedi 13 janvier à 17h, le film de Jean Eustache, La maman et la putain, qui sera rediffusé également le mardi 16 janvier à 14h30.
Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mais 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire.
Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous.
Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas.
Je croyais que vous ne faisiez rien.
Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme que de lui prendre sa femme ?
Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit.
Ça dépend des jours et des opinions.
Bah écoutez, s'il vous plaît, autant que ça, mais baisez-la, tiens, baisez-la pendant que je serai à Londres.
Comment voulez-vous faire l'amour ? Tendrement ou violemment ? Chaque matin, chaque jour que nous ne passons pas ensemble est un jour que nous perdons. C'est un massacre, c'est un crime.
J'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type ?
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Je suis affreuse.
Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien.
Foutez-moi le camp, oust. Je liquide.
Mon cœur est une fleur d'automne sans ça.
Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste.
Je vous le donne.
C'était la dernière semaine de ce programme numéro 89. Vous avez sans doute pris connaissance, ou ce sera le cas dans les prochains jours, du nouveau programme très stimulant du Bourguet, le numéro 90, dont on vous parlera la semaine prochaine. À très vite.